je suis, voilà, je copilote depuis le début de cette année un petit laboratoire qui s'appelle le Centre Internet et Société du CNRS, donc du Centre National de la Recherche Scientifique. Je suis chargée de recherche au CNRS depuis quelques années. Par ailleurs. Et voilà, comme le dit son intitulé, le Centre Internet et Société reconnaît que le réseau Internet n'est pas qu'une technologie ou un ensemble de technologies, mais quelque chose qui affecte notre être ensemble, notre faire société à plusieurs égards. Y compris, bien sûr, des aspects qui ont trait à la façon dont on peut communiquer, la façon dont on prend des décisions pour nous, la façon dont nos démocraties évoluent. Et donc, c'est, je crois, pour ces raisons, voilà, le fait que le Centre Internet et Société a parmi ses thèmes de recherche ces questions-là, du débat public en ligne, qu'on m'a invité ce soir. Donc c'est ce dont je vais vous parler pendant voilà, quelques dizaines de minutes. Je suis ravie de faire partie de ce cycle de conférences sur cette question de comment les opinions se forment dans les sociétés d'aujourd'hui et voilà, quelles sont toutes les influences systémiques, pour ainsi dire, qui en font ce qu'elle est. Voilà, ce qu'on peut faire nous comme individus, certes, mais aussi l'influence de plusieurs acteurs du secteur privé, des entreprises, jusqu'au gouvernement, à nos institutions. Voilà, donc vous avez, la plupart d'entre vous sont probablement des fans de Star Wars, ou peut-être pas tous, ceux d'entre vous qui le sont probablement reconnaîtront le petit être qui est parmi nous pour commencer cette présentation. Voilà pourquoi j'ai choisi ce mème qui est assez facile à trouver sur le réseau pour commencer cette conférence. C'est parce que on parle de plus en plus du réseau Internet comme un champ de bataille, comme quelque chose où une arène où se déroulent certaines des guerres de notre temps. Et pour quelqu'un qui s'occupe de l'Internet comme objet de recherche depuis quelques années, comme je peux l'être, mais voilà, je suis, j'ai 35 ans, il y a quand même des gens qui utilisent le réseau Internet comme objet de recherche depuis bien plus longtemps que moi aussi. Il a fêté ses 50 ans depuis tout peu. Voilà, c'est tous ces chercheurs pendant. Les jours voilà, plus. Quand l'Internet était un nouveau-né, où il bougeait ses premiers pas, en fait, ce type de discours d'Internet comme champ de bataille, comme arène des guerres du nouveau millénaire, on n'en entendait vraiment pas beaucoup, en fait. Il y avait plutôt des discours d'émancipation, de démocratie, d'égalité, d'Internet comme levier de la parole pour tous, etc. Donc voilà, c'est très intéressant pour nous, chercheurs de l'Internet et des implications sociales et politiques de l'Internet, de voir comment ce discours a évolué. Et avec vous, ce soir, je vais essayer de faire un peu la part d'un discours et de l'autre, voilà, à la fois de celui de la guerre et de celui du merveilleux outil d'émancipation, et vous parler un petit peu de certaines des choses que les gens font avec l'Internet et ce que l'Internet fait aux gens quand il s'agit de communiquer par son biais. Donc, sûrement, ceux qui parlent de l'Internet comme arène de combat et de controverses acharnées n'ont pas tort. Alors, il y a un certain nombre de choses qui se passent actuellement sur l'Internet qui peuvent devenir des outils de contrainte ou des outils problématiques de surveillance et de censure. Alors, vous avez peut-être entendu parler des débats, par exemple, sur les algorithmes de recommandation. Voilà, là, il y a des nombreux exemples de ça qui varient de la façon dont Google classe les contenus qu'il nous propose quand on lui soumet une requête de recherche, jusqu'à des algorithmes de recommandation de contenus particuliers comme des chansons chansons ou, ou des films. Justement, les classements des moteurs de recherche, Google en tout premier lieu, comment est-ce que Google choisit quelle information il nous présente en premier? Est-ce qu'il n'y a pas des ruses qu'il nous faut comprendre et qu'il nous faut éventuellement déjouer? Que font certains acteurs, notamment privés, mais pas que, les institutions y sont pour leur part, de toutes les grandes masses de données qu'on produit quotidiennement, en partie délibérément et en partie simplement parce qu'on est sur Internet et on laisse des traces pendant qu'on navigue sur le web ou quand on s'engage dans d'autres activités, et notamment... comment est-ce que certains acteurs chercheraient à prédire des choses sur nous en se servant de ces données et de l'agrégation de ces données. Et enfin, voilà le problème dont on parle énormément depuis quelques années, notamment, j'y reviendrai plus en détail que d'autres questions au milieu de l'exposé, donc les questions qui concernent la désinformation et ce qu'on appelle les fake news, notamment, il y a beaucoup de débats sur cette étiquette elle-même, mais voilà, grosso modo, c'est comment est-ce qu'il y a des informations fausses qui se propagent sur les web, comment est-ce qu'on peut les reconnaître et les déjouer alors même qu'elles semblent être les plus partagées par des très grandes communautés d'individus. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Et donc il y a, malgré toutes ces possibles menaces ou problématiques potentielles, donc il faut garder bien à l'esprit qu'Internet, même à ses débuts, là où il était quelque chose de beaucoup plus homogène et beaucoup plus voilà, géré de façon beaucoup plus simple qu'il ne peut l'être aujourd'hui comme réseau mondial, il n'a jamais été un lieu d'espace idéal où ne prenaient place que des décisions constructives. Si vous regardez certaines des recherches qui ont pu être faites même au début des années 90, donc alors que le web était vraiment pas né ou à ses débuts, vraiment tout début, il y a eu très très vite des questions de spam à gérer, hein, les courriers non désirés, non désirables, ou encore les trolls sur les forums internet, donc des individus qui dont l'objectif étant en ligne, dans le débat en ligne, est de le perturber, hein, ils n'ont pas d'autre objectif, etc. Donc la vision d'une technologie pour la démocratie et pour l'émancipation des citoyens a sa part de fantasmes, ou de voilà, on peut au moins se poser la question de combien elle a été vraie même au début du réseau. Et donc la question qu'on peut se poser est: comment est-ce qu'on peut expliquer que c'est maintenant qu'il y a une défiance toujours plus grande et toujours plus articulée vis-à-vis d'Internet et du rôle qu'il peut avoir dans nos démocraties? En fait, c'est intéressant à ce sujet de faire un certain nombre d'observations qui nous amènent à conclure en fait que il y a la partie promesse et la partie déception possible ou menace possible de l'Internet. En fait, c'est en général deux faces d'une même pièce ou d'une même réalité. En fait, d'un côté, Internet est un réseau de communication qui est né de façon décentralisée et né de façon distribuée. Donc, par la conception même de l'Internet, c'est très difficile de filtrer les contenus qui circulent sans que ces contenus puissent trouver une autre façon de parvenir à leur objectif. C'est un réseau où il y a par défaut de la libre expression. Chaque nœud du réseau est né depuis les débuts de ce réseau pour être pas seulement un récepteur de contenu, mais aussi un producteur de contenu. et aussi il peut être un relais de ces contenus, c'est-à-dire les paquets de données sur Internet en général suivent un parcours qui n'est pas seulement du nœud qui envoie au nœud qui est destiné à recevoir, mais trouve son parcours tout au long de plusieurs nœuds qui ne sont que des intermédiaires. Et donc, chaque individu sur Internet s'est vu offrir une incroyable opportunité qui était celle de pouvoir aussi publier des contenus au lieu de seulement les recevoir. Alors, on comprend bien que cette possibilité de prise de parole si libre et si dépourvue de barrières n'est pas dépourvue de problèmes, ou au moins de problèmes potentiels. Et il y a aussi des formes de discussion publiques qui sont nées sur le web et qui, du fait de cette même liberté, se sont exprimés de façon assez conflictuelle, parfois carrément malveillante et brutale. Et donc la chute de barrières à l'entrée fait en sorte qu'il y a une prolifération de prises de parole qui ne sont pas forcément toutes souhaitables pour plusieurs d'entre nous. Et aussi, cette architecture technique décentralisée et distribuée a assez vite donné une empreinte politique à l'Internet qui était assez précise, même si on n'a pas mis le mot politique sur Internet que plus tard, et je reviendrai là-dessus. Quelle est la caractéristique très importante de cette architecture? C'est qu'il n'y a pas de ce que qu'en anglais s'appelle gatekeepers, donc littéralement les gardiens des portes, hein, des superviseurs en tout genre qui sont susceptibles de poser des barrières ou des points de contrôle très, très forts. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, voire même c'était une des innovations principales qu'Internet a amené. C'est dans l'ère des mass-médias classiques comme les journaux ou la télévision, il y avait toujours des acteurs qui étaient clairement investis du pouvoir et de l'autorité de décider quelles informations devaient être portées, étaient suffisamment fiables, vérifiées, intéressantes pour être portées à la connaissance du public. Et d'autres pas. Voilà, donc ces acteurs comme les journalistes, les directeurs de rédaction, etc., décidaient en fait de la légitimité des différents acteurs qui parlaient dans les médias et donc pouvaient aussi priver d'écoute les acteurs qu'ils considéraient n'étaient pas méritoires. Donc avec l'essor de l'Internet, bien sûr, ça c'est... ce travail très, très qualitatif et très restrictif s'est vu durement mis à l'épreuve au vu de cette publication sans filtre qui est possible sur le net. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les fonctions de hiérarchisation, de filtrage, de sélection n'ont pas disparu. Elles ont juste été reconfigurées. Et souvent, elles sont devenues automatisées ou semi-automatisées. Il y a les acteurs qui prennent ces décisions sont de plus en plus font partie du système technologique qu'est Internet. On les a programmés de certaines façons pour faire certaines choses, et elles apprennent à le faire de façon automatique ou presque. Et donc, bien sûr, c'est le pouvoir de ces acteurs et de qui les programme est très fort désormais dans l'Internet et peut de facto vraiment gérer les flux d'informations auxquels on peut avoir accès à un degré vraiment très important. Il y a une autre caractéristique de comment marche l'Internet, de comment son architecture est construite, qui concerne la façon dont les utilisateurs sont égaux. a priori, dans ce réseau, dans leur capacité de prendre la parole et de publier les contenus. Et donc il y a des un principe qui a priori fait en sorte que tous les internautes soient au même niveau, aux mêmes conditions, soit quand ils doivent prendre la parole, soit quand ils doivent l'écouter. Alors là aussi, on voit carrément des différences avec la façon dont marchaient et dont marchent toujours les chaînes de télévision ou les journaux. Parce que souvent, quand on est dans une émission de télévision, le statut a priori d'une personne qui parle a une importance a priori, au-delà de ce qu'il dit, même avant qu'il dise ce qu'il doit dire. S'il y a une pancarte qui nous explique que ce monsieur ou cette dame est un expert ou une experte de quelque chose, on a tendance à prêter un argument d'autorité intrinsèque à cette parole. Or, ce n'est souvent pas le cas dans certaines communautés sur Internet. Il y a même des cas où il est interdit de montrer avec trop d'énergie et de détails qu'on aurait une expertise a priori, et seuls valent les mots qu'on prononce et notre capacité d'argumenter. Alors, c'est ce même niveau, il y a par ailleurs d'autres hiérarchies, d'autres façons d'établir l'autorité qui prennent la place des arguments d'autorité classiques, et notamment sur les réseaux sociaux, à la Twitter ou à la Facebook. Il y a des indicateurs de notoriété, on pourrait les appeler, notamment par exemple la quantité de followers, de suiveurs dont on dispose, qui prennent la place en quelque sorte de l'argument d'autorité, et ils sont autant de leviers qui permettent à une personne sur Internet de faire de diriger sa parole vers un nombre de plus en plus important de personnes. Alors, donc c'est là que je voudrais introduire le mot politique de façon explicite dans mes propos, et de comprendre un peu mieux comment est-ce que tout ce que je viens de dire, ce que je dirai par la suite, peut contribuer à expliquer des choses sur les liens entre la citoyenneté, la politique et l'Internet. Alors, il y a un rappel que, peut-être si j'étais en train de parler à un public de chercheurs sur les implications sociales de l'Internet, j'aurais laissé tomber le premier point de cette slide, mais je le redis ici parce que c'est quand même important à redire de façon explicite. C'est que là, comme beaucoup de travaux sur les études sociales des techniques l'ont montré au fil des décennies, la technique n'est jamais neutre. Elle porte en soi une certaine idée d'un modèle de société, si pas carrément des valeurs et des projets politiques. Internet ne fait pas exception à cette petite règle de la technique pas neutre. Et en fait, le programme qui a trouvé sa place au sein de son architecture est assez précis et assez spécifique. C'est la possibilité pour tous de s'exprimer sur tout, et que ce soit pas seulement quelque chose qui est possible techniquement, mais considéré comme légitime et comme une valeur à promouvoir. Et donc, à l'échelle du réseau, donc on peut prendre la parole pour dire essentiellement ce qu'on veut, et sans avoir peur, sauf dans certains environnements spécifiques, de voir ces propos qui sont filtrés. Et donc la culture de débat qui a pris place sur Internet est vraiment fortement imprégné de cette possibilité, qui donc est vraiment considérée comme une valeur à promouvoir. Et ça se reflète aussi sur la grande diversité de façons d'être sur Internet qui sont aujourd'hui présentes dans quelque chose d'aussi global et d'aussi étendu comme le réseau des réseaux. Donc, par ça, je veux dire qu'il y a, au sein d'une société particulière, il y a des variétés d'individus et de groupes qui ont un système de valeurs qui est une quantité de systèmes de valeurs différentes, pas les mêmes expériences. Pas les mêmes préconditions à partir desquelles on pense ce qu'on pense, et ces divergences font le sel du débat public, et ils le font aussi en ligne. Par contre, ce qui change avec Internet, c'est que à l'ère des grandes chaînes de télévision ou des grands journaux, la façon où s'exprimaient ces divergences, ces différentes opinions, était pour la plupart cantonnée à l'aspect privé de l'interaction familiale ou de l'interaction avec sa communauté, son parti politique ou ses associations, etc. C'était quelque chose de privé ou de semi-privé. Et alors que ces différentes façons d'être dans l'espace d'Internet se trouvent libre cours, et donc notamment aussi les conflits qui concernent les valeurs qui divergent parmi nous explosent, trouvent des formes d'expression qui sont très... qui peuvent être très, très violentes, très explicites ou agressives. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément Internet qui a rendu les gens moins tolérants ou moins consensuels ou plus agressifs. Mais par contre, il est un catalyseur et un révélateur extrêmement puissant de cette diversité et de ces différences, de la façon dont on donne vraiment du sens au monde. Et donc aussi peut servir de multiplicateur des frictions qui naissent du fait qu'on met ces idées en confrontation. Alors donc j'ai parlé de ce pluralisme presque intégriste qui sous-tendait les débuts de l'Internet. Là je vais parler rapidement d'autres projets qu'on peut définir politiques, dans la mesure où on cherche à donner une structure à nos sociétés qui répondent à certaines valeurs. Ils sont des projets politiques. Qui ne relève pas de l'Internet de ses débuts, mais d'autres couches techniques qui se sont servies de l'Internet comme structure de base et qui se sont développées dessus et qui sont devenues autre chose tout en ne pouvant pas se passer du réseau Internet. La principale de ces structures, c'est le World Wide Web. D'accord. Donc, je ne crois pas déplacer ici de rappeler que l'Internet et le web ne sont pas la même chose, d'accord. Que l'Internet est un réseau de communication physique qui est composé d'un certain nombre de câbles, de serveurs, d'ordinateurs, donc d'une infrastructure physique, sur lequel sont hébergées autre chose, et notamment des applications, d'accord. Donc, le web est l'application la plus grande, la plus à succès d'Internet, pour ainsi dire. À un moment, on l'avait appelée la killer application de l'Internet, hein, qui vraiment était la plus, de long et large, la plus répandue du réseau. Et donc, c'est quoi le web? C'est une application de type documentaire. Hein, ça relie, c'est un ensemble de documents qui sont reliés par des liens hypertextes. Donc, par voilà, c'est ce qui, au début de l'Internet, était bleu et souligné, et maintenant, c'est de plein de couleurs différentes. Mais voilà, le principe, c'est qu'au moyen de la navigation sur Internet par nos navigateurs, on peut passer de page en page. Et donc les pages peuvent se relier à d'autres pages qu'ils estiment apporter plus d'informations ou donner des sources ou des précisions sur ce que la dite page est en train de raconter. Or, sur le web, en fait, ces liens hypertextes sont distribués de façon inégalitaire et hiérarchique. En fait, on est très loin du pluralisme et de l'égalité, parce que les liens sont en fait la matière de base à partir de laquelle les moteurs de recherche classent les informations. Et les sites qui reçoivent le plus de liens, en général, sont considérés comme étant le plus important. Donc le fait qu'on soit particulièrement bien relié donne ce que j'ai appelé tout à l'heure un indicateur de réputation et de notoriété. Voilà, ça c'est une page qui... c'est une page qui est bien, c'est une page qui sera bien cotée. Et donc cette répartition inégalitaire des liens impacte assez directement la visibilité de certaines prises de parole plutôt que d'autres sur Internet. Il y en a certaines de ces prises de parole qui sont invisibilisées par le fait qu'ils sont des îles sur Internet. Ils ne font pas partie du réseau web. À cet égard. Le sociologue Dominique Cardon, qui est un des sociologues plus fréquemment, voilà, à juste titre, de par la qualité de ses travaux cités dans le paysage de la sociologie d'Internet, a parlé à ce propos, à propos du web, d'une démocratie élitiste ou censitaire, alors que l'architecture de l'Internet lui-même serait plutôt... répondrait plutôt à un principe de pluralisme. Alors, il y a aussi un autre projet d'Internet, qui est celui des réseaux sociaux, dont on parle beaucoup, beaucoup dans l'actualité aussi, en général. C'est très rare qu'une semaine passe sans que les Facebook et les Twitter de notre vie quotidienne ne soient pas pointés du doigt de par voilà, leur dernière mise à jour de termes d'utilisation qui serait au détriment de notre vie privée ou voilà, autres décisions qu'ils prennent, notamment un temps plus récent sur les fake news. J'y reviendrai. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'occupe tellement des réseaux sociaux? Parce que des machins comme les Facebook et les Twitter ont pris une place super importante, dernièrement, dans le paysage des médias. Là où, voilà, les chaînes télé et les journaux étaient maîtres incontestés. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux sont à la fois une opportunité magnifique et aussi un problème potentiel? Parce qu'ils sont à la fois le principal point d'accès à l'information pour un nombre croissant d'entre nous. On ne va plus directement sur les portails web du Monde ou d'autres journaux. Souvent, on ne va pas directement sur ces sites, mais on clique sur l'article du Monde ou d'autres journaux qu'un de nos amis a posté sur Facebook parce qu'il l'aurait été intéressant. Donc c'est par ce biais-là qu'on arrive à notre source d'information. Et c'est aussi, en même temps, le lieu où on débat de l'information. De par les posts qu'on peut faire sur les murs nôtres et de nos amis, pour les commentaires qu'on peut poster à la suite des posts d'autrui, etc. Donc, on peut dire que les réseaux sociaux vraiment deviennent des arènes très importantes, centrales, du débat en ligne. Et eux aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ils contribuent à rendre beaucoup plus compliqué la frontière entre ce qui relève du public et ce qui relève du privé quand on échange des informations. Et il y a vraiment des distinctions qui tombent. Par exemple, ce qui relève de l'opinion personnelle peut vraiment très vite devenir un conflit, un débat, un débat acharné. Il y a un degré de personnalisation de l'information qui est très fort. Et du coup, ce qui est aussi intéressant à souligner par rapport aux réseaux sociaux, c'est que il y a tout un mécanisme de reconnaissance de ce que nous on pense et de ce que on veut que les autres pensent de nous et de ce qu'on publie, qui se met en place avec des mécanismes a priori très très simples, comme par exemple le clic, le like, le smiley qu'on peut mettre quand on aime vraiment vraiment beaucoup quelque chose, le petit cœur, voilà. Alors ce qu'au début sur Facebook était le point levé était le seul la seule façon d'approuver, après au fil des années ça s'est affiné, on peut maintenant exprimer toute une panoplie d'émotions, mais qui doivent pas seulement montrer de façon immédiate ce qu'on pense d'un certain contenu, mais aussi à nous faire espérer et obtenir de la reconnaissance pour nous. Voilà, donc c'est les réseaux sociaux sont à la fois tout ça, parce que un relais pur et simple de l'information n'est plus possible. On adopte une position du simple fait de partager quelque chose dans la très grande galaxie, dans la surabondance d'informations avec laquelle on est en contact. Si on choisit de partager cette information-là, c'est qu'on adopte une attitude envers cette information, c'est qu'on est, on espère obtenir de la reconnaissance en la partageant. Et souvent, si on partage en contenu, c'est aussi qu'on veut se faire reconnaître comme appartenant à des communautés spécifiques. En fait, en général, c'est de part toujours ces choix très, très, très radicaux de ce qu'on partage, de ce qu'on ne partage pas, ou ce sur quoi on commente. C'est qu'on veut être reconnu comme membre d'une communauté, et souvent en opposition à plein d'autres communautés aussi. Voilà, donc c'est à ce titre, il y a un certain nombre de travaux en sciences sociales qui ont été qui se sont concentrés sur la façon dont la citoyenneté et la participation des citoyens est reconfigurée par tous ces outils qui ont trait aux réseaux sociaux et à Twitter et à Facebook notamment, parce qu'ils sont les plus diffus, les plus répandus. La citoyenneté pendant assez longtemps a été identifiée avec des cérémonies, des protocoles, des jours où on célébrait tel ou tel autre événement spécifique qui a fait la République ce qu'elle est, etc. Avec ce genre d'outils-là, elle devient quelque chose de beaucoup plus immédiat et de beaucoup plus familier. Donc avec un clic, on peut exprimer des avis sur des questions politiques qui par ailleurs peuvent être très complexes. On peut indiquer ce qu'on préfère ou ce qu'on préfère pas. On peut soutenir des prises de position. Et donc on fait ça par le pouce levé de Facebook, en retweetant. En relayant l'information avec ou sans commentaire, une information qui a été déjà postée par quelqu'un d'autre sur Twitter. Voilà, donc c'est une forme de participation qui est vraiment super, super immédiate, assez tout à fait rapide. Et donc il y a aussi un certain nombre de travaux qui ont analysé la mesure dans laquelle tout cela pourrait appauvrir le débat public. Parce que si, voilà, si des questions de discussion complexes peuvent se résumer à un pouce levé ou un pouce bas, il n'y a peut-être pas que des côtés positifs à ceci. Donc on a parlé de dévoiement de l'engagement politique, on a parlé d'un activisme beaucoup plus paresseux et beaucoup plus centré sur soi-même que voilà, des formes d'activisme qui ont été auxquels on est plus habitué, l'engagement associatif, l'engagement militant, etc. Et donc ça n'arrange rien le fait que ces outils, comme le clic ou le retweet, vu qu'ils sont assez facilement quantifiables, ils peuvent assez facilement être agrégés, ils peuvent assez facilement être collectés par des acteurs tiers, ils sont aussi utilisés pour faire dire des choses qui n'étaient pas nées pour dire. Quand on fait un petit clic, nous tout seuls, dans notre coin, on n'imagine pas qu'agrégé à des centaines ou à des milliers d'autres clics, ils peuvent devenir l'arme principale avec laquelle un acteur livre une bataille d'opinion en soutenant qu'il a beaucoup de public ou qu'il a beaucoup d'autorité, etc. Et pourtant, c'est des choses qui se passe, voilà, ces outils quantifiés peuvent devenir ces armes. Et donc la démocratie, la participation, la citoyenneté avec ces outils-là peuvent devenir assez vite un mode de vie. Mais un mode de vie qui souvent ne pousse pas très loin cette même participation. C'est dur, j'enseigne rarement en fait, au CNRS on n'enseigne pas, donc pour parler hein, une heure et demie, j'ai besoin d'eau de temps en temps. Alors, donc, ce dont je voulais vous parler par la suite, m'attarder un petit peu sur ça, c'est parce que voilà, on en parle beaucoup dans l'actualité, et c'est quelque chose qui est à la mode, pour ainsi dire. Donc, quand quelque chose est à la mode, c'est toujours bien de faire la part de prendre un peu de recul et voir par exemple ce que l'histoire des médias peut nous dire là-dessus, etc. C'est ces histoires de filtrage, d'automatisation et de désinformation qui constituent beaucoup des débats sur l'internet d'aujourd'hui, parce que alors, il y a la convergence de toute cette dynamique dont je viens de parler, à la fois le pluralisme, la démultiplication d'informations et ces moyens un peu implicites, si pas sournois, de la hiérarchiser, de trouver des façons de la hiérarchiser, qui ont vu éclore un certain nombre de mécanismes qui gèrent les flux d'informations de façon beaucoup plus implicite qu'on pourrait le penser et beaucoup plus en profondeur aussi qu'on pourrait le penser. Donc du coup, il y a la convergence de la surabondance de l'information, donc la nécessité d'en faire quelque chose, d'en faire sens, sinon on peut pas s'en tirer. Un certain nombre de mécanismes qui hiérarchisent et qui personnalisent l'information, et le fait que ça se passe de façon automatisée ou semi-automatisée, qui peuvent générer un certain nombre de problèmes. En fait, notamment, il y a une... il peut exister un certain nombre de dynamiques de personnalisation qui s'inspire donc de l'historique, de ce qu'on a pu déjà faire sur Internet, de ce qu'on a déjà pu commander sur Amazon plutôt que liker sur un Facebook, voir une convergence de tout ça, pour nous proposer des choses. Bon, vous avez aimé ça, vous allez aimer ça aussi. La plupart des plateformes qui se substituent à la télévision pour nous proposer de regarder le prochain film ou d'écouter le prochain morceau de musique, en général font ça. Voilà, ils sont sous-tendus par un arsenal d'algorithmes qui cherchent à faire sens d'informations passées qui nous concernent. Et le risque de ces dispositifs-là, c'est qu'ils nous enferment de plus en plus dans des sphères qui seraient homogènes et qui nous ressembleraient de plus en plus. Ça, c'est ce que l'activiste Elie Pariser a appelé il y a quelques années les bulles de filtrage, hein, les filter bubbles. Et donc, l'idée, ce serait que les algorithmes de recommandation, le plus qu'ils nous proposent des choses qui nous ressemblent, nous évitent l'inconfort d'être soumis à des opinions ou à des contenus qui seraient trop différents de nous, mais en même temps, il nous éviterait aussi d'être exposés peut-être à des arguments qui seraient contradictoires avec ce que l'on pense, mais qui seraient tout aussi bien argumentés, qu'on pourrait avoir intérêt à connaître, justement pour être exposé à la diversité des opinions et, voilà, à la limite, nous conforter ultérieurement dans nos opinions à nous, mais en étant exposé à d'autres points de vue. Donc, c'est surprise, cette question de renfermement dans des espaces de débat en ligne où on se retrouverait à parler qu'avec nos entiers semblables n'est pas complètement un phénomène nouveau. Il y a déjà, quand l'Internet était devenu quelque chose de grand public dans les années 90, notamment avec le web, on avait déjà parlé pas mal de ces menaces. On les avait appelées la balkanisation de l'espace public à cause d'Internet, ou leur enfermement dans des silos. Voilà, on avait utilisé toutes ces métaphores qui reviennent régulièrement aussi dans d'autres domaines qui concernent les politiques de l'Internet, notamment quand on parle récemment de souveraineté numérique et de comment les États aimeraient réaffirmer leur autorité sur les Internets nationaux. Voilà, là aussi, on parle de balkanisation parce que toutes ces initiatives-là relèvent de la fragmentation de quelque chose qui, a priori, est un réseau global. Donc, le risque qu'amènent ces dispositifs de filtrage, de hiérarchisation implicite, etc., c'est l'enfermement idéologique des individus et des communautés. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut se passer dans l'état actuel des choses. Et à ce propos, je trouve extrêmement intéressant le concept que mon ami et collègue Romain Badoire a proposé il y a quelques années dans un livre qu'il appelait le désenchantement de l'Internet, qu'il appelait la propagande intérieure. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est que la propagande, dans l'histoire des médias, en général, ça a toujours été quelque chose de différent de soi. C'était quelque chose qui était clairement un apparat, parfois extrêmement articulé, imposant, puissant, mais qui pouvait toujours être identifié comme étant à l'extérieur de soi. Alors que le type de propagande qui s'incarne aujourd'hui dans l'Internet réside dans les architectures techniques qui font circuler le contenu, et beaucoup moins dans les contenus eux-mêmes qui nous seraient proposés par une entité externe. Et donc c'est beaucoup plus difficile de s'extraire éventuellement des mécanismes que ces architectures proposent. Et Romain dit aussi que cette propagande, en fait, s'appuie, elle est insidieuse, elle est forte, elle est problématique à éradiquer parce qu'elle s'appuie sur ce qu'on aime entendre, elle s'appuie sur nos biais cognitifs, elle produit ses effets par des mécanismes où on s'auto-convainc de la bonté des choses qu'on connaît déjà. Et donc, c'est particulièrement compliqué à éradiquer. Voilà. Et le problème de cette propagande est aussi que parfois elle est associée à des mécanismes d'expression agressive, voire brutale. Voilà. Alors, dans cette situation, ces situations d'enfermement idéologique, de risque d'enfermement idéologique, de risque de propagande intérieure, il y a eu une grande opportunité pour des entreprises qui se sont proposées de faire de la désinformation de masse. Alors, c'est ce qu'on a appelé les fake news, donc fausses nouvelles. Rumeurs politiques en tout genre, théories du complot, qui ont pris vraiment une place de taille dans les réseaux sociaux, jusqu'à concurrencer voilà toutes sortes de sources qu'on estime fiables. Alors peut-être les cas les plus éclatants qui ont pu être portés à notre connaissances dans les années récentes sont ce qui s'est passé avec le Brexit. Voilà, c'est certaines informations circulées à l'époque qui ont notamment pris de court tous ceux qui pensaient que le Royaume-Uni n'allait ni de près ni de loin vouloir partir de l'Union européenne. Mais voilà, surprise, surprise, on n'avait pas regardé les bons circuits d'information. Voilà, et c'est, il y en avait plein d'autres qui pensaient autrement. Ou encore, on a beaucoup parlé de ce que les fake news pilotées par la Russie ou pas ont pu faire à la présidentielle américaine qui a porté Donald Trump au pouvoir. Et alors là encore, c'est intéressant de faire appel à l'histoire un petit peu, parce que les fake news sont essentiellement de la rumeur. Hein? Collègue Benjamin Thierry a pu dire que la rumeur est même le plus ancien média du monde, en fait, loin d'être un produit des réseaux. Par contre, il y a des choses qui changent avec le fait que ces rumeurs circulent sur Internet et pas ailleurs. C'est que, avec la place que prennent des acteurs, des plateformes comme Facebook, donc avec cette convergence de fonctions dont je parlais tout à l'heure, dans la façon dont marche l'économie de l'information aujourd'hui, c'est que cette rumeur est réintermédiée de façon, qui sont effectivement novatrices, et puis elle est industrialisée. La plupart du temps, les fake news, ce n'est pas l'affaire de... quelques poignées de personnes non organisées, mais c'est vraiment le produit d'un réseau de désinformation, d'une entreprise de la désinformation, avec des stratégies assez complexes et précises. Qu'est-ce qui motive ces entreprises ? C'est que généralement... ces stratégies de désinformation génèrent des revenus pour ceux qui les produisent et surtout qui contribuent à leur diffusion. Ils sont une industrie et donc on peut en tirer profit. Il y a quelque temps ce reportage très intéressant sur comment quelques adolescents macédoniens dans une ville qui était en profonde dépression économique avec un revenu mensuel de quelques centaines d'euros moyens sont devenus riches parce qu'ils se sont associés et organisés pour constater qu'un certain nombre de contenus numériques, publicitaires, qui étaient en faveur de Trump en défaveur d'Hillary Clinton, étaient ceux qui étaient les plus partagés sur les réseaux sociaux. C'était une donnée, en fait. Et donc, en produisant des nouvelles fabriquées de toutes pièces qui mimaient ces contenus, et en les faisant circuler sur Facebook, ils attiraient beaucoup d'internautes. Ces internautes étaient exposés à des publicités. De ces publicités, ils pouvaient tirer des bénéfices qui étaient vraiment qui sont devenus d'un montant décuplé par rapport à ce qu'ils pouvaient espérer d'obtenir s'ils avaient un boulot, pratiquement n'importe quel boulot dans leur petite ville. Voilà. Donc c'est souvent de l'organisation, de la stratégie et de la capacité à capter l'air du temps pour tirer profit de publicité et de diffusion. Et donc, de cela découle aussi que la désinformation a très souvent très peu à voir avec l'engagement politique véritable. Même si les contenus qui sont partagés relèvent du registre politique, on parle de Trump, on parle d'Hillary Clinton, voilà, l'idéologie politique et l'envie de poursuivre un objectif politique véritable n'est presque jamais, voire jamais, au cœur de cette stratégie. Alors, il y a tout cela. Voilà, pour le moment, j'ai parlé plutôt de la façon dont les internautes, des groupes d'internautes ou des individus d'internautes se positionnent par rapport à l'information et ce qu'ils en font. Là, je voudrais toucher un peu plus à des aspects de régulation et de gouvernance qui sont en fait véritablement mon cœur de métier, parce que il y a cette importante caractéristique du débat public sur Internet, qui est la privatisation de ce débat et des instruments qu'on utilise pour s'engager dans ce débat. Et voilà, ça a trait vraiment à la place qu'ont pris les fameux GAFA, hein, les Google, Facebook, Apple, Amazon et Microsoft de la situation, les géants de la Silicon Valley, dans la régulation de facto de libertés civiques et numériques importantes, la liberté d'expression en premier lieu. Et alors, le tournant, pourquoi est-ce que ce secteur est devenu de plus en plus privatisé? Alors, parce que d'un côté, le poids politique des États a été mis à dure épreuve sur Internet et sur le web à plusieurs égards. Pardon. Et donc, jusqu'à des temps assez récents, les grands acteurs privés se sont toujours, ont toujours proclamé qu'ils étaient surtout des plombiers de l'Internet, qui géraient des contenus, qui géraient les tuyaux, mais pas les contenus qui circulaient sur ces tuyaux. Et donc, si on gère l'infrastructure, c'est bien, mais on n'allait pas s'immiscer dans choisir quel est le bon contenu, quel est le mauvais contenu. Nous, on ne fait pas ça. Voilà, ça, c'était surtout la posture des grandes plateformes pendant très longtemps. Or, depuis quelques années, ça a probablement relevé de la lutte au terrorisme, notamment, suite au rôle que les institutions, la puissance publique a sollicité de la part de ces grandes plateformes pour lutter contre certains types de contenus, ce que n'a pas fait la lutte contre certains acteurs pornographiques, par exemple, semble avoir fait la lutte contre les terroristes, probablement à raison d'ailleurs. La donne a clairement changé. Maintenant, les géants du web n'hésitent plus à supprimer un certain nombre de contenus, à les filtrer, à en déclasser certains et à les faire remonter d'autres. Voilà, s'ils estiment qu'ils posent un problème, quel que soit ce problème. Et par ailleurs, voilà, c'est des petites controverses qui concernent désormais ce que Facebook estime ne pas relever du décor, etc., posent bien sûr, ouvrent autant de micro-controverses pour des raisons qui tiennent des différentes cultures et de l'importance relative que voilà, la violence plutôt que le sexe, plutôt qu'autre chose revêt dans différentes cultures. Etc. Donc c'est quelque chose que c'est le choix que les plateformes ne pouvaient plus se passer de faire probablement, mais qui a ouvert une quantité de voilà, on va dire de controverses additionnelles ou de controverses potentielles assez importantes. Et il faut dire d'ailleurs que la puissance publique ne peut pas se passer du secteur privé si elle veut elle-même agir sur ce type de contenu. Et donc, vu que qu'il y a eu plusieurs voilà, que l'économie numérique marche souvent à coup de quasi-monopole, et Google devient le quasi-monopole parmi les moteurs de recherche, Facebook devient le quasi-monopole parmi les réseaux sociaux, etc. Il y a des moments où deux choses se passent. La première est qu'il y a une délégation tout à fait volontaire des pouvoirs qui relèvent de la puissance publique envers ces acteurs. Et l'autre est que ces acteurs sont tellement grands et tellement importants que certaines des décisions qu'ils peuvent prendre par rapport à classement ou déclassement de contenu, etc., finit par devenir une espèce de standard de facto, une espèce de régulation de facto du secteur. On a eu un exemple assez éclatant là-dessus avec le droit à l'oubli, par exemple. Il y a eu un moment où Google a dit « oui, on va contraindre voilà, une forme de droit à l'oubli sur Internet », et au-delà des initiatives législatives qui ont pu être prises au niveau national, européen, etc., la façon dont Google a décidé de mettre en œuvre ce concept a de facto été le standard de la façon de le traiter par la suite. Et donc, toutes ces questions de régulation et de privatisation des réseaux sociaux, des grandes plateformes, rejoignent des questions plus larges des différents dilemmes de la gouvernance de l'Internet, sur lesquels je pourrais revenir et faire un autre, pas qu'une conférence, mais un cycle de conférences, parce que c'est tout un monde hyper compliqué, un monde qui est fait d'institutions nationales, supranationales, qui est fait de communautés, qui est fait de lois du marché, qui est fait de normes inscrites dans l'architecture technique, donc dans la conception même des logiciels ou des infrastructures. Et voilà, c'est quelque chose qui est en soi sujet à un certain nombre de controverses. Il y a une bibliographie tout à fait étendue à ce sujet. Là, j'ai mis deux ouvrages emblématiques qui sont en anglais, mais il y a des choses intéressantes qui sont faites aussi directement en français. Et je pourrais partager des références avec qui serait intéressé. Je ne m'y colle pas à la gouvernance de l'Internet au cours de cet exposé, parce que c'est vraiment tout un monde en soi. Mais en même temps, c'est intimement lié à tout ce que je viens de raconter. Donc, avant de quelques slides de conclusion, donc s'il faut résumer tout ce que je viens de dire jusque-là, c'est que des barrières sont tombées avec l'Internet, des barrières qui concernaient qui pouvait prendre la parole, ce qui pouvait être dit, ce qui peut être dit, et les façons dont on peut prendre la parole, participer, s'engager dans les arènes de débat public. Et ça, c'est pour le meilleur et pour le pire, de façon dont qu'on vient de voir. Donc la question qu'on peut se poser, parce que voilà, on est quand même dans un endroit où on réfléchit à des visions pour un monde meilleur, on peut se demander comment est-ce qu'on peut construire des espaces communs où effectivement ce droit à être entendu dont l'Internet est porteur de façon très, très puissante puisse coexister avec les différentes façons d'être qui existent sur l'Internet, et surtout de ne pas tomber dans des débats, dans les déviances du débat, dans l'agressivité, dans le brutal. Alors, une façon, un réflexe qui peut être bon à avoir, c'est l'incitation à soi-même et aux autres de mettre en marche son esprit critique régulièrement, ce qui signifie avoir le réflexe, notamment s'habituer à avoir le réflexe de rechercher les auteurs et les sources d'une information, évaluer l'information à laquelle on est confronté, moins pour ce qu'elle dit, ce qu'elle contient, et un peu plus en fonction de comment on l'a produite, qui l'a produite, pourquoi, à quel moment, sur quel support, à qui il parlait, etc. Et il y a des cours c'est la partie de mes activités qui concerne l'enseignement par choix, du coup, qui concerne les controverses sociotechniques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des cours qui entraînent des étudiants avec des profils très différents. Ça peut être des ingénieurs, des étudiants de journalisme, des étudiants de médiation scientifique, et j'en passe, à ce travail de dénicher les sources et donc essayer de n'avoir pas de a priori ou d'idées préconçues sur une information selon justement qui la prononce ou qui la diffond, mais essayer de vraiment trouver comment les arguments ont été élaborés et quels étaient les publics, et si cela se base sur des données ou sur des arguments solides. Donc l'école peut faire ça, l'université peut faire ça, à différents niveaux cet esprit critique peut être entretenu. Alors probablement dans un monde qui où les fake news et la désinformation se diffusent vite avec grand plaisir. Pourquoi ça se passe, ça? Une des raisons pour laquelle ça se passe, c'est parce que il y a une défiance croissante vis-à-vis des institutions et de l'expertise, on peut dire. C'est au moins fortement mis en discussion dans plein d'arènes. Et dans ces circonstances, ranimer ou essayer de raviver l'idéal démocratique de l'Internet, essayer de l'améliorer. Probablement ça passera aussi par autre chose que avoir le réflexe de chercher la source. Il y a pas mal de travaux intéressants de psychologues et de chercheurs en sciences de l'information et de la communication, notamment, qui ont étudié les théories de complot. Voilà comment marche la diffusion des théories du complot, comment marche la désinformation, comment marchent les rumeurs. Et un des grands résultats qu'il faut retenir de ces travaux, c'est que ces groupes de communicateurs ont succès parce que il y a une absence ou quasi absence de contradicteurs qui s'opposent à eux, parce que souvent ces contradicteurs ils pourraient s'engager dans ce type de débat, mais ils estiment que ça ne vaut pas le coup, que de toute façon, la solidité des raisonnements et la solidité des autres, des arguments autres parlera, et que la raison et la vérité finira par l'emporter. Ce qui fait en sorte, bien sûr, que ce qui pourrait contredire serait ferme, les désinformateurs prolifèrent et se démultiplient et saturent l'espace public de propos qui sont plutôt mensongers, agressifs. Et très probablement, au vu du fameux climat de défiance dont je parlais, c'est probable que les solutions qui pourront faire quelque chose à ce sujet ne seront pas celles qui arrivent par le haut de façon prescriptive, mais seront des solutions plutôt du type collaboratif ou par le bas, les communautés, la mesure dans laquelle les communautés pourront construire les débats internes à ces communautés de façon constructive, de façon ouverte à la différence, mais persuasive, etc. Et du coup, l'apprentissage de la pratique du débat semble central. Cet apprentissage dépasse les purs et simples enjeux technologique. Donc il ne s'agit pas seulement, il y a des fois où on aurait tendance à dire que si on enseigne plus d'informatique dans l'école, tout se passera très bien, on deviendra tous des pros de l'Internet et on sera en mesure de faire face à ce type de questions. C'est sûrement très bien d'apprendre plus l'informatique et d'apprendre un peu à coder. C'est super dans un monde où une bonne partie de ce qui finit par nous concerner et diriger notre vie, c'est du code, etc. Mais ça ne se limitera pas probablement à ça. La pratique du débat, c'est aussi apprendre à écouter l'autre, pas à entrer dans le débat avec l'idée de « je dois convaincre tous mes interlocuteurs », mais commencer par comprendre pourquoi ils pourraient arriver avec des opinions différentes sur un même sujet controversé, par exemple. Voilà, tout ça, c'est de l'apprentissage de techniques, de dialogue, de rhétorique, etc., qui ne viennent pas toutes seules. Alors j'ai parlé tout à l'heure de comment les États et les institutions ont eu quelques moments un peu difficiles depuis que l'Internet est devenu le média de masse, pour ainsi dire, le média grand public. Il y a des façons dont les institutions pourraient revenir pleinement dans ce genre de débat et dans l'action et dans la prise de décision qui concerne ces débats. On le voit dans plein de dossiers qui ont eux aussi marqué l'actualité dans les années récentes. Un exemple sont les débats sur la neutralité du net, par exemple. Donc le principe selon lequel on ne devrait pas discriminer entre différents types de trafic et de paquets de données qui circulent sur Internet, parce que ça a des implications sur la capacité de tous être entendus, la libre circulation de l'information, etc. C'est plus compliqué que ça, la neutralité du net, mais bon, c'est le principe de base, c'est quand même que c'est un principe tout à fait technique de comment on fait circuler des paquets de données dans l'Internet et qui arrive assez vite à impacter des enjeux comme la liberté d'expression et les libertés civiques. Le fait que l'Europe a infligé quelques amendes historiques à des acteurs comme Google, notamment pour abus de position dominante. Donc voilà, c'est le moment où les institutions recommencent à décider comment est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle dans le maintien, l'incitation à la libre concurrence. Bien sûr, le le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. C'est quand même quelque chose qui, avec tous ses défauts, est un des efforts importants que l'Europe a pu faire très récemment pour voilà, établir un cadre général pour toutes les entreprises qui souhaiteraient faire usage des données des utilisateurs sur le territoire européen pour les guider dans ces choix. Et justement, il y a des niveaux à la fois national et supranational auxquels voilà, ces débats peuvent se passer. Bien sûr, le dialogue entre ces niveaux, souvent, est très compliqué. Hein, les États membres de l'Union européenne ne voient pas souvent tous a priori la même chose sur ces questions délicates, et donc voilà, obtenir une directive qui soit suffisamment consensuelle est problématique. Mais voilà, il y a tous ces niveaux, et il y a, et ce sera mon presque dernier point, il y a probablement des valeurs qui tiennent à la fois du social et du technique, qui sont à soutenir dans tout cela, qui ne peuvent pas faire du mal et probablement feront du bien. Le fait que les produits, les logiciels, etc. soient interopérables, donc que ce soit facile pour eux de parler le même langage ou au moins de maîtriser ensemble une partie de l'alphabet suffisante pour qu'ils puissent dialoguer. La portabilité des données, c'est quelque chose qui est préconisé par le règlement général sur la protection des données. Il faut qu'on puisse sortir d'un réseau social avec tout ce qu'on y a apporté et le transposer à un autre réseau social qu'on estimerait répondre mieux à nos besoins. Bien sûr, Facebook n'a jamais été très content sur la portabilité des données. La préservation de la libre concurrence et de la possibilité pour des petits acteurs ou pour des jeunes acteurs d'essayer d'innover dans une situation qui tend quand même assez naturellement au monopole. Que les acteurs économiques et politiques soient accountable, qu'ils soient redevables, on a essayé de traduire comme ça, au public. Donc on peut discuter des formes que ça devrait prendre, mais voilà, ça semble a priori une bonne idée. Dans l'optique que voilà, Internet soit aussi des choses, des étiquettes qu'on lui attribue au fil des années, de bien commun à public utility, donc service public, est-ce que ça s'apparente désormais au réseau d'électricité ou à quelque chose comme ça dont on ne peut pas se passer et qui donc doit être régulé de la sorte. Et en général, voilà, ça semble assez clair que les choix techniques que sous-tendent l'Internet ne sont pas que l'affaire des personnes qui les programment et qui les conçoivent, mais c'est l'affaire de voilà, segments de la population bien, bien plus large que ça, parce qu'ils ont des effets assez importants sur le présent et le futur des démocraties. Donc il ne s'agit pas de qu'on développe l'Internet à la place des technologues, mais que ces technologues s'engagent dans toutes les arènes qu'il faut pour s'assurer que c'est que l'Internet soit gouverné et que de façon le plus possible voilà, inclusive et transparente et compréhensible, malgré le fait que ça reste quand même un système technique très complexe, très interconnecté et qui, voilà, avec un certain nombre de choix de développement initiaux qui n'avaient pas été faits en pensant que ça allait devenir ce qu'est aujourd'hui. Et donc, voilà, ça rajoute une couche de complexité. Voilà, j'imagine que vous aurez des questions. J'espère pouvoir y répondre. Merci.